France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
Nous sommes à Échassières dans l'Allier. Là, en 2028, ouvrira l'une des plus grandes mines d'or blanc en Europe, une mine de lithium. Mais dans la région et au-delà, ce projet divise. Alors pourquoi, avec quels arguments et quelles lignes de fracture? Nous en parlons ce matin avec Célia Yozard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de La ruée minière au 21e siècle, une enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Et pour commencer, peut-être rappelez-nous ce qu'est le lithium.
Alors, le lithium, c'est un minéral qui entre notamment dans la composition des batteries. Alors, il est important de garder en tête que, par exemple, dans la batterie d'un vélo électrique, vous avez 50 grammes de lithium, et dans la batterie d'un SUV ou d'une grosse voiture, vous en avez 10 kilos.
On l'a dit, on est à Échassières avec ce projet minier, Échassières qui se situe dans l'Allier. Quelle est l'histoire, l'historique de ce projet? Comment est-il exploité concrètement?
Alors, pour l'instant, ça n'est qu'un projet, hein, au stade d'instruction. Donc, on est avant l'enquête publique. Donc, c'est très délicat de dire que la mine va se faire. Parce qu'il y a des procédures en cours, évidemment. Et donc, le renouvellement du permis, le projet de mine de lithium et métaux associés, hein, il n'y a pas que le lithium, a été annoncé en 2022 par la société Imerys, donc une multinationale, une grosse société minière à l'échelle européenne. Et le débat public organisé par la Commission nationale du débat public est en train d'avoir lieu.
Qu'est-ce que cette multinationale espère concrètement? Est-ce qu'on sait déjà la quantité de lithium qui existe sous terre?
Oui, alors les chiffres qui sont donnés permettraient une production de 10 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, ce qui correspond à peu près, d'après les chiffres donnés, à 700 000 véhicules électriques gros. Voilà.
Si on entre dans le détail avec vous, Célia Yozard, de ce projet, il y a des arguments pour, des arguments pour, contre. Commençons peut-être par les premiers, les arguments en faveur de ce projet. On dit beaucoup que ce projet est écologique, en tout cas c'est l'engagement de la multinationale. Quels sont ses engagements concrètement?
Alors, les engagements d'Imerys sont les engagements habituels des entreprises minières, hein, qui consistent à dire que, bien que l'industrie minière soit polluante, les impacts seront minimisés. Par exemple, en utilisant beaucoup la circulation de trains pour transporter le minerai et les produits, et non pas les camions. Il y a ce genre d'engagement.
Concrètement aussi, les élus locaux, le gouvernement soutiennent ce projet car ils attendent des retombées économiques importantes, notamment en matière d'emploi, 500 et 600 emplois directs promis. Est-ce que, en local, l'argument économique porte auprès de la population?
Alors oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'idée qu'on voudrait en allier... revitaliser ces campagnes, avoir un projet un peu structurant pour créer une économie qui soit un peu robuste. Et en même temps, si on regarde concrètement, 500 emplois, 1000 emplois, c'est très très peu au regard des impacts du projet, ce qui représente en fait en termes de potentielle destruction. Donc même à la CGT, cet argument des emplois ne fait pas mouche.
Quand on entre dans le détail des arguments qui s'opposent à ce projet, Célia Yozard, pourquoi, comment comprendre justement que la population semble se braquer contre ce projet alors même que cette multinationale a pris des engagements en matière écologique?
Alors, je ne pense pas que la population soit particulièrement braquée, mais elle se documente sur l'industrie minière et son fonctionnement ordinaire. Et elle constate, ce que je constate aussi dans mes travaux, c'est que les engagements de l'industrie minière, malheureusement, ne tiennent pas face aux réalités de comment fonctionne une mine aujourd'hui. Et donc, on parle d'un projet qui est gigantesque à l'échelle non seulement départementale, mais aussi nationale. On parle de produire 2 millions de tonnes de déchets miniers par an. On ne sait pas où on va les mettre. On parle de consommer plus de 1,2 million de mètres cubes d'eau par an. On ne sait pas où on va les prendre. On ne sait pas quelle quantité d'eau sera disponible pour des usages, ne serait-ce que de subsistance, en 2028, quand doit commencer cette extraction. Et surtout, en fait, il y a un élément sur le fond, c'est-à-dire la dimension de l'intérêt public, l'intérêt collectif du projet. Ce qu'on a entendu pendant le débat public, ce qu'on entend encore pendant le débat public, c'est l'idée que, en fait, cette mine n'est pas spécialement favorable à la réduction des émissions carbone. Parce que produire des grosses voitures avec des grosses batteries va complètement à l'encontre de la réduction des émissions. Et en plus, ce projet, d'un point de vue des émissions, est lui-même catastrophique, comme toutes les mines. La mine décarbonée, ça n'existe pas.
La mine je me permets de vous couper, pardonnez-moi. La mine décarbonée, cela n'existe pas. C'est bien ce que l'on constate, justement, dans d'autres projets miniers en Europe. Aujourd'hui, c'est impossible d'extraire depuis une mine sans produire de CO2?
Ah ben oui, à tous les niveaux. Enfin, en fait... les énergies fossiles et l'industrie minière fonctionnent en symbiose, que ce soit au stade de l'extraction, de la déforestation, la puissance qui est requise, et puis ensuite au stade de la minéralurgie et de la métallurgie. On a absolument besoin de toute la gamme des énergies fossiles. Donc non, ça n'existe pas. On peut avoir du photovoltaïque, par exemple, pour alimenter des sanitaires ou des bureaux dans un site minier, mais ça va pas plus loin. Par exemple, là, à Échassières, vous avez ne serait-ce qu'un four dans l'usine de métallurgie. Ce four va consommer à l'année autant que l'énergie domestique pour 67 000 personnes. Et ça, c'est juste le four qui va fonctionner au gaz et calciner le lithium pour qu'il soit raffiné, si vous voulez. Donc ça donne un peu une idée.
On parle de Échassières dans l'Allier depuis le début de notre échange, Célia Isoard. Est-ce qu'il existe d'autres projets similaires en France sur le point d'être lancés?
Alors non, en fait, il y a pléthore de projets miniers qui sont lancés, mais au stade, là encore, des permis d'exploration qui sont demandés. Échassières, c'est vraiment le gros projet qui est soutenu par le gouvernement pour réouvrir la porte de la relance minière en mettant vraiment en avant l'intérêt collectif de la lutte contre le réchauffement climatique. Justement, cet argument qui pose tant de problèmes, puisque moi, je vous donne les éléments là-dessus. Mais les autres projets portent aussi sur des tas d'autres métaux qui sont très, très demandés par l'industrie aujourd'hui, les métaux de spécialité. Pour, par exemple, l'industrie du numérique, l'électronique, donc qui vont être utilisés pour l'aéronautique, l'armement. Il y a un projet comme ça du côté du Morbihan, du côté de Chessy aussi. Et là encore, bon, ça va poser les mêmes problèmes. Le principal, à mon sens, c'est la question de l'eau. En fait, la question à se poser, c'est comment, avec quelle eau, on produit tous ces métaux dans les années à venir.
Le 16 mars dernier, l'exécutif européen a présenté sa feuille de route pour extraire davantage de matières premières critiques nécessaires, selon l'Europe, toujours à la transition énergétique, tout en réduisant les dépendances à un seul pays. En quoi consistait ce texte et cette démarche ?
Alors, la grande loi européenne sur les matières premières, en fait, elle consiste à sécuriser l'approvisionnement en métaux pour toute l'industrie. Donc, elle met beaucoup en avant l'idée de trouver des métaux pour les industries bas carbone, mais en réalité, c'est dans tous les domaines, il y a un problème d'approvisionnement, puisque la Chine et la Russie sont des grandes puissances qui dominent aussi les marchés des matières premières. Donc, cette loi, elle vise à réduire la dépendance et à accéder plus facilement aux gisements, que ce soit en Europe ou dans les autres pays, grâce à des partenariats avec des pays africains, avec des pays en Amérique latine, etc. Un partenariat avec l'Ukraine aussi, qui a commencé avant la guerre, qui est important. Et donc, au maximum, si les objectifs de cette loi sont remplis, il y aura 10% de métaux extraits en Union européenne. Donc une relance minière en Europe, mais pour 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, qu'une économie qui repose sur l'extraction de métaux reste quand même une économie impériale, hein, qui repose sur quand même des politiques néocoloniales, et que cette relance minière ne satisfera jamais les besoins de cette industrie. Et moi, c'est le problème qu'il me semble qu'il faut soulever. C'est notre consommation en métaux, qui est pour l'instant colossale, qui ne cesse de croître pour des besoins qui sont en réalité plus que douteux. Aujourd'hui, l'un des secteurs qui porte le plus la croissance de la demande en métaux, c'est le secteur du numérique, qui devient l'intelligence artificielle. C'est les data centers, c'est les serveurs, c'est les énergies renouvelables pour alimenter ce secteur. C'est aussi, par exemple, l'aéronautique. Donc, la question, c'est comment on va arbitrer ça? Comment on va hiérarchiser les priorités, puisqu'on ne peut pas produire les métaux pour tous ces secteurs?
Et comment résoudre également cette contradiction entre, d'un côté, rouvrir des mines sous couvert, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage « La rouée minière au XXIe siècle », sous couvert de lutter contre le réchauffement climatique, et dans le même temps, de créer ces projets qui polluent énormément, Célia Izoard?
Moi, je vais vous dire que c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que l'industrie minière est l'un des secteurs connus qui réchauffe le plus le climat, et ça va rester le cas. Et en même temps, qui fait peser les plus graves menaces sur la disponibilité de l'eau. Aujourd'hui, les deux tiers des projets miniers sont situés sur des zones qui sont menacées de sécheresse. Or, les mines créent des pollutions des ressources en eau assez éternelles, si vous voulez, parce que c'est des pollutions métalliques et c'est de l'acidification souvent. Donc, c'est extrêmement grave.
Merci.
Donc, voilà. En gros.
Merci beaucoup Célia Izoard. Je rappelle que vous êtes l'autrice de La Rouée minière au XXIe siècle, une enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Merci d'être venue nous éclairer sur ce projet et ses complexités à Échassières dans l'Allier.